Bonsoir. L'Assemblée nationale examine la proposition de loi fixant les règles relatives à la liberté des réunions et les mesures d'application de la liberté des manifestations. Selon cette proposition de loi, les organisateurs des manifestations sont tenus d'informer par une déclaration écrite l'autorité publique une semaine au moins avant la date projetée de la manifestation. Aussi, ce texte attribue à ces organisateurs la responsabilité civile et pénale des dommages causés à l'occasion de ces manifestations. Quelle analyse faire de cette proposition de loi? Nous en parlons avec Délice Essang, le député national de l'opposition et auteur de cette proposition de loi. Il est aussi président du parti politique Ensemble des volontaires pour le développement de la RDC. Bonsoir, honorable Délice Essang.
Bonsoir.
Maître Jean-Joseph Mukendiwa Mulumba, il est avocat et membre du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDP Saint-Sigle. Bonsoir, Maître Jean-Joseph Mukendiwa Mulumba.
Bonsoir.
Et Jonas Tchombela, il est coordonnateur de la société civile du Congo. Bonsoir Jonas Tchombela.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Initiée par le député national Délice Essang, la proposition de loi fixant les règles relatives à la liberté des réunions et mesures d'application de la liberté des manifestations a été déclarée recevable et envoyée pour approfondissement à la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Quelles sont les innovations contenues dans cette proposition de loi, Kéline Kouté?
La proposition de loi présentée comporte 50 articles répartis en 9 chapitres. Toute personne ou tout groupe de personnes qui ont manifesté sur la voie publique est tenue d'informer par une déclaration écrite à l'autorité publique dépositaire du pouvoir de maintien de l'ordre désigné, selon le cas, par la présente loi, et ce, une semaine au moins avant la date projetée de la manifestation. Autre innovation, cette proposition de loi, en son article 15 par exemple, stipule que les réunions publiques peuvent être interdites par les autorités chargées du maintien de l'ordre en cas de risque de troubles graves à l'ordre public, des menaces à la sécurité des participants, d'insuffisance des forces de police disponibles pour faire face. La mesure d'interdiction est écrite et motivée. Elle doit être proportionnelle par rapport au risque des troubles évoqués. L'autorité compétente ou son délégué qui entend, pour des raisons de sécurité publique ou d'ordre public, soulever des objections au déroulement de la manifestation ou de la réunion publique, doit notifier l'impossibilité d'encadrer la manifestation aux organisateurs dans les 48 heures au plus tard de la réception de la déclaration. Sa réponse doit être motivée et être assortie des propositions alternatives. La loi a aussi innové en matière de la responsabilité et de l'indemnisation des victimes. Ainsi, par exemple, les organisateurs des réunions publiques et des manifestations sont tenus pour responsables des faits et des préjudices pouvant résulter de leur rassemblement. Les victimes ont le choix d'attaquer l'État en indemnisation lorsqu'ils ont subi un préjudice à cette occasion.
Il faut dire que cette proposition de loi est fustigée par certains députés. Ces derniers voient dans cette loi un moyen de restreindre les libertés des uns et des autres. Pour s'en rendre compte, selon eux, il suffit de voir la lourde responsabilité attribuée aux manifestants. Certains parlent carrément d'un passage en force de 2016 en faveur du pouvoir en place. C'est le cas de Frank Diongo qui répond au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Il est vrai que la Constitution de la République a garanti les manifestations publiques, mais a demandé tout simplement une loi de mise en œuvre. Contrairement à l'intitulé de la loi, on va même réglementer les réunions privées et publiques. La philosophie générale de cette loi, c'est une loi liberticide, démocraticide. Cette loi, quand tu analyses au niveau de l'intitulé, il faut impérativement écarter les réunions publiques ou privées dans son champ d'action. Quand tu analyses même les barèmes des sanctions disproportionnelles, l'enjeu principal de cette loi, c'est de résoudre un problème. Au lieu de résoudre un problème des manifestations publiques, ils viennent en fait préparer une sorte de représailles, préparer les dépassements de mandat de 2016, avant 2016, parce qu'il n'y aura pas d'élection. Il faut tout faire pour faire peur à ce qu'il n'y ait pas de réunion et qu'il n'y ait pas de manifestation publique.
Nelissa Sanga, vous êtes députée nationale de l'opposition et auteur de cette proposition de loi. Vous êtes aussi président du parti politique Ensemble des volontaires pour le développement de la RDC en vol en sigle. Et qu'est-ce qui a motivé l'élaboration de cette proposition de loi? Avez-vous constaté des failles dans la mise en application de la loi en vigueur ou c'est par souci, n'est-ce pas, de répondre à un besoin donné?
Merci pour l'invitation. Les débats qui suscitent cette question démontrent que c'est une question d'actualité. Pour la petite historique, cette loi, je l'ai conçue sous la législature passée. Je voulais qu'elle soit adoptée 2006-2011. Je voulais qu'elle soit adoptée à l'occasion des 50 ans de l'indépendance du Congo. Et lorsque nous avons fait la sortie de l'envol au Carrefour des Jeunes le 4 janvier 1950 2010, j'avais annoncé que nous allions déposer cette proposition de loi, chose qui a été faite, mais le bureau de l'époque, conduit par le président Bouchab, n'avait pas aligné la loi à l'ordre du jour, et donc la question n'a pas été examinée. Alors, nous avons réédité l'exploit, parce que nous nous sommes retrouvés à nouveau élus dans cette assemblée, donc nous avons repris cette loi. Donc c'est une loi qui est ancienne. À quel problème nous avons voulu répondre? À un problème d'abord historique. Dans ce pays, 1959, 4 janvier, ça a été le fait de pouvoir refuser à des gens de pouvoir manifester et que cela a amené à des débordements. 1969, le massacre des étudiants, je parle des grandes dates, il y en a eu sans doute d'autres, et les martyrs de la démocratie, 16 février 1992, qui a amené à ce qu'on puisse réprimer dans les sangs les gens qui voulaient manifester. Sans doute conscient de tout cela, la Constitution a organisé un régime de la déclaration préalable pour l'organisation des manifestations. Le problème avec le décret qui organise la matière actuellement, c'est qu'elle met sous le même pied d'égalité et la déclaration préalable et l'autorisation préalable. De sorte que l'autorité administrative qui est saisie par une déclaration de manifestation se trouve, je vais bien dire, légalement dans le droit de pouvoir refuser une manifestation sans être astreint par la loi à proposer à ceux qui veulent manifester des conditions pour exercer cette liberté que je considère comme fondamentale.
Pendant que cette même loi dit que la simple information suffit.
Non, la loi ne dit pas ça. L'article 4 du décret actuel, c'est parce que les gens ne lisent pas, dit qu'en fait, la déclaration pour pouvoir manifester, mais l'autorité peut interdire sans obliger l'autorité à justifier sa décision. Ce qui fait que la loi donne à l'autorité un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Et ce pouvoir discrétionnaire amène les autorités à des refus vexatoires, discrétionnaires, discriminatoires par rapport aux manifestations. Donc nous avons voulu, par la loi actuelle, créer un droit à la manifestation. Parce que la nouveauté, c'est d'obliger l'autorité administrative. Quand il évoque les questions d'ordre public, parce que la manifestation peut gêner ceci ou cela, l'autorité est dans l'obligation de proposer des solutions alternatives. C'est-à-dire que le droit à manifester est, dans cette loi nouvelle que nous proposons, suffisamment garanti. Deuxième élément, les gens se retrouvaient devant une impasse de la loi. La loi n'identifiait pas, compte tenu de l'organisation administrative aujourd'hui, devant quelle autorité on devait présenter et sous quelle forme on devait présenter cette déclaration préalable. Et vous verrez que la loi que nous avons proposée a simplifié parce qu'en fait, le simple cachet d'accusé des réceptions sur la déclaration suffit à faire valoir le droit des gens à pouvoir manifester.
Alors, par rapport à l'encadrement des manifestants, à l'article 32 de cette proposition de loi, vous dites les forces de police chargées d'encadrer les manifestations ne peuvent faire usage des armes à feu sans sommation préalable. C'est comme si vous préconisez, n'est-ce pas, l'utilisation des armes à feu, alors que depuis toujours, nous savons que ce qui est autorisé, c'est l'utilisation des armes non létales. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de franchir la ligne rouge?
Non, les armes non létales font partie dans la catégorie des armes à feu. Quand on a parlé ici, c'est toutes les armes pour lesquelles la projection des projectiles se fait au moyen de la combustion dans la chambre. Donc maintenant, les munitions blanches
qui ne provoquent pas la mort.
Et qui ne provoquent pas la mort. Nous avons estimé que la classification de ces armes, la classification doit se faire par un décret. Les gens évoquent cet article parce qu'il est dissocié du reste. Nous disons ceci, que le recours à la force publique, ne peut pas s'exercer contre la dispersion d'une manifestation. Je suis juridiquement précis en disant une manifestation est un rassemblement qui a fait l'objet d'une déclaration préalable. Mais on ne peut disperser qu'un attroupement, c'est-à-dire un rassemblement, un attroupement fortuit qui trouble l'ordre public. Je dis bien qui trouble l'ordre public, on peut alors les disperser. Ou bien une manifestation qui a dégénéré et pour laquelle les autorités chargées du maintien de l'ordre. Et la loi sur la police prévoit que lorsque l'autorité civile qui contrôle la police veut utiliser les forces de la police, elle doit le faire par une réquisition écrite dont les formes sont prévues par décret. Et donc cette loi ne dit rien d'autre que ce qui est prévu déjà dans la loi qui porte organisation et fonctionnement de la police et dans les règles qui s'observent partout par ailleurs. J'ai l'impression que le procès que l'on fait le plus souvent à cette loi depuis que j'entends les récriminations sont fondés soit sur la méconnaissance du fonctionnement réel de l'État et des règles de fonctionnement de la police administrative et dans quelles conditions on passe à la police judiciaire et dans quel cas on va procéder au rétablissement de l'ordre public lorsque celui-ci est troublé et dans quelles conditions on utilise la force, donc le recours aux forces de la police.
Tout ceci est réglementé. Avec les armes non létales, on peut disperser cette manifestation-là?
Non, pour moi, les armes non létales font partie des armes à feu. C'est une catégorie. Et j'ai dit que la catégorisation, elle est faite par la voie réglementaire. Il est bien entendu que quand on parle des armes à feu ici, l'usage de la force ne doit pas avoir pour destin de tuer. Alors il faut aussi qu'on se dise, les armes létales, au départ on a considéré que dans les conflits de basse intensité ou dans une situation telle de troubles à l'ordre public, on pouvait utiliser les armes non létales et n'apportaient pas la mort, mais il a été démontré notamment que compte tenu des circonstances de l'espèce, du terrain, l'utilisation parfois des armes létales conduit à des blessés qui sont grièvement endommagés pour le reste de leur vie. Donc, il faut que l'usage de la force, pas seulement des armes létales, mais l'usage de la force soit proportionné par rapport à la menace à l'ordre public ou au trouble à l'ordre public.
Dans la faisabilité, c'est pas facile, hein. C'est pas facile.
Bien entendu, c'est pas facile parce que même un camion, même un camion d'eau chaude peut arriver à brûler quelqu'un jusqu'au troisième degré et l'endommager pour le restant de sa vie et le rendre handicapé à vie.
Merci.
Donc, l'idée ici n'était pas de promouvoir l'utilisation de armes à feu pour tuer, c'est pas un permis pour tuer. La réglementation va se faire par des mesures prévues par le décret et la loi le dit.
Merci, honorable Délice Sanga. Maître Jean-Joseph Mukendiwa Mulumba, vous êtes avocat et membre du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Comment vous analysez cette proposition de loi?
D'abord, du point de vue strictement juridique, je dois féliciter l'honorable Délice Sanga pour cette initiative. Cette proposition vient à point nommé, parce que, comme il le dit lui-même dans l'introduction de cette proposition de loi, il y avait en quelque sorte une divergence entre le décret loi de 1999 ainsi que la constitution promulguée actuelle. Et ce qui est donc important, c'est de pouvoir maintenant avoir une législation moderne qui permette aux acteurs politiques, lorsqu'ils doivent s'engager, de savoir en quoi ils doivent, quelles sont leurs protections, quelles sont les garanties qui leur sont offertes, et de l'autre côté, de pouvoir réglementer en quelque sorte la conduite des personnes qui sont chargées de faire respecter les lois, du point de vue juridique. Du point de vue politique, cette proposition vient à point nommé parce que si vous regardez, l'honorable Délice Sanga s'est arrêté en 1991 avec les chrétiens, mais depuis toutes les transitions que nous avons connues et toutes les républiques, le grand problème des partis politiques, le grand problème, c'est la répression des manifestations politiques. Et de ce point de vue, nous particulièrement à l'UDPS, nous sommes les grandes victimes. Nous ne saurons jamais revenir suffisamment sur la répression meurtrière du 27 novembre 2011, Quand on a vu devant les images de la télévision, la police s'acharnait avec des armes à feu contre les combattants à pied, à main nue.
Je voulais pas. C'est la logique qui revient aujourd'hui. L'utilisation des armes à feu, c'est la logique.
Justement, voilà. C'est là justement, il faut voir dans quel contexte nous nous trouvons. Donc, dans un contexte politique comme le nôtre, caractérisé par un usage disproportionné des armes à feu, et je suis content, dans son texte de loi, dans sa proposition de loi, il insiste sur le caractère, sur la proportionnalité. Et je crois que cette notion aura intérêt à être mieux explicitée, parce que l'usage de la force publique doit être proportionnel à la manifestation. Et la difficulté que nous avons dans cette proposition de loi, c'est parce que, contrairement au contexte politique, quelque part, l'honorable, le texte très bon dans les grandes lignes de l'honorable Délice Sanga donne une ouverture pour l'autorité publique éventuellement de pouvoir utiliser son moyen privilégié, c'est-à-dire les armes à feu. Et c'est là où j'insiste sur cet article 32. Je crois que l'article 32 est une disposition qui n'a pas été libellée conformément à ce que l'honorable Sesanga vient de nous expliquer ici, qui est assez convaincant. Et là, je crois que l'honorable Sesanga a intérêt, puisqu'il s'agit d'une législation moderne, de se référer, puisqu'il le dit lui-même dans son exposé des motifs, il parle de droit comparé. Et là, il a intérêt à s'inspirer, par exemple, de ce que nous voyons en droit comparé, et notamment des réglementations, des règles de conduite édictées par les Nations Unies en ce qui concerne l'usage des forces des armes à feu. Et là, il y a des règles très précises. Je crois que même si on doit prendre une législation interne, mais les règles dont nous parlons ont déjà donné une ligne de conduite qui est assez précise, et notamment qui demande que les forces de police puissent être bien protégées. C'est ainsi que nous voyons que dans les manifestations dans les pays que nous voyons à la télévision, vous voyez les forces de politique, ils sont des boucliers, ils sont protégés dans les chars. C'est ce qui permettra justement à les garantir aussi leur propre sécurité. Alors, je pense que ces éléments-là sont assez importants pour éviter que les forces de l'ordre ne se sentent toujours menacées et qu'ils utilisent les armes à feu. Oui. Je dis que le danger de l'article 32 tel que présenté, c'est que ici chez nous, lorsqu'on va réprimer une manifestation, on donne directement des armes de guerre à la police. Et la vérité, nous la savons, nous la connaissons. Parfois, sous l'uniforme de la police, ce sont des éléments armés, c'est connu, c'est
très fréquent. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui poserait problème? L'usage des armes à feu, l'usage des armes de guerre ou l'usage des armes non létales?
Et justement, si nous voyons par exemple exactement les principes de base sur le recours à la force et à l'utilisation des armes à feu, adopté par le congrès de la Havane en 1990. C'est un congrès qui était donc encadré par les Nations Unies. Eh bien, il y a une gradation. Avant d'arriver à utiliser les armes, il faut que la menace soit bien précise. Ce n'est pas d'emblée, quand on va dans une manifestation, vous équipez déjà les forces de l'ordre avec des armes à feu. De sorte que, dans un pays comme celui-ci, où l'utilisation, où comme on dit toujours, nos policiers ou ceux qui portent l'uniforme des policiers ont toujours la gâchette facile. Cet article risque d'être un permis de tuer honorable, malgré ce que vous expliquez. Oui, parce que nous sommes dans un contexte précis, oui, où réellement on n'a pas cette tolérance. Vous savez que le grand problème chez nous, c'est l'absence de tolérance. Et en l'absence de tolérance, le policier est utilisé, il est même instrumentalisé pour réprimer les opposants. Vous voyez, quand il y a des manifestations de la majorité, il n'y a aucun problème, ils sont encadrés. Mais il suffit que l'opposition demande d'aller manifester, vous voyez comment il y a des chars dans la rue, avant même ça. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une législation moderne qui puisse être plus contraignante pour les auteurs, elle est assez contraignante pour les auteurs des manifestations.
Merci.
Mais il faut aussi maintenant qu'elle soit assez contraignante pour les personnes qui ont la force publique et qui ont la gâchette facile.
Merci Jonas Tchombela. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Vous venez de suivre Maître Mukendi, Jean Mukendi Mulumba de l'UDPS, qui estime que cette loi tombe à point nommé.
Oui, il a raison. Je crois que je m'associe à ceux qui saluent cette loi parce que nous, de la société civile, nous avons mission d'observer les manifestations publiques, de suivre comment ça se fait. Il n'y avait pas de repère au regard du décret qui a fonctionné il y a un bout de temps, qui est en contradiction avec la Constitution. Nous estimons que cette loi a le mérite de nous donner quand même des repères pour apprécier, pour faire notre monitoring, regard d'abord des manifestants ou de pouvoir organisateur, mais aussi du pouvoir qui doit encadrer les manifestations. Donc pour nous, cette loi, elle tombe à point nommé, parce que là, nous sommes à l'aube des prochaines échéances électorales. Il faut qu'il y ait une loi qui réglemente le secteur. Mais la seule crainte, c'est que quand on dit que les réunions publiques peuvent être interdites en cas de risque, il faut pas que ce soit bien compris, parce que nous savons comment ça fonctionne dans notre société. Il ne faut pas que nous soyons en dehors de notre société. Parce qu'on peut commencer à utiliser ça qui a risque alors que réellement, il n'y avait pas risque. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, il faut que l'honorable réfléchisse profondément sur cet aspect pour que ça ne soit pas utilisé tout le temps pour interdire une manifestation.
Parce abusivement.
Que nous, abusivement. Parce que nous nous tenons à ce que l'espace démocratique, que les gens s'expriment. Et c'est ça qui va consolider les valeurs démocratiques dans notre société. Si on ne peut pas manifester ce qu'on pense, alors vous imaginez ce qui fait qu'il y a des contraintes, il y a des zones de tension qui seront dans les pouvoirs, les chefs des organisateurs, ce qui peut nous entraîner à d'autres formes de violence que nous ne pouvons pas. Mais si le texte tel qu'il vient d'arriver, nous sommes en train de le suivre jusqu'à ce qu'il sera adopté, parce que nous tenons à avoir des repères de référence. Et c'est le cadre juridique qui donne des repères. Et c'est le cadre juridique qui réglemente. Donc pour nous, nous saluons également, comme l'a dit Maître, l'initiative de l'honorable Sesanga, parce que ça modernise quand même la vie politique de notre pays de telle manière à ce que les choses puissent avancer dans le sens de la démocratie participative.
Alors, comment vous analysez la réaction de certains députés de l'opposition qui ont fustigé cette proposition de loi et qui parlent carrément d'un passage en force de 2016 en faveur du pouvoir en place?
Non, moi je n'ai pas une lecture politique, moi je dois avoir une lecture technique, parce que nous on a besoin, ça c'est une lecture purement politique, le passage en force, où est-ce que c'est écrit dans cette loi-là qui a passage en force. Quand on réglemente le secteur, voulez-vous qu'on ait une constitution qui entre en contradiction avec le décret de l'ONF ce n'est pas ça. Il faut moderniser et adapter la loi.
Avec ces députés-là qui fustigent la loi, d'abord, ils dénoncent le fait que on autorise l'usage des armes à feu, ça c'est de un. Et puis, on attribue une lourde responsabilité aux manifestants à travers cette loi.
Oui, mais sinon, il y aura l'anarchie. S'il n'y a pas quelqu'un qui doit répondre, c'est l'anarchie qui va s'installer. Vous voyez ça? Donc, l'usage, à ce que je sache, n'est pas autorisé. Mais on prévient. Et même quand il faut l'utiliser, et la loi c'est ici que nous devons voir un peu plus loin, on doit préciser dans quelles conditions on peut utiliser telle force pour telle manifestation. Et ce n'est pas que la loi dit qu'il faut utiliser la force, même quand bien me le cite. Non, la loi précise dans quel cas on peut arriver à cette possibilité-là. Et commencer à mal interpréter, c'est donner une fausse interprétation de la loi et que ça risque de créer la confusion dans l'opinion de la population qui ne peut pas. Jusqu'ici, on déplore. On a parlé des manifestations dans ce pays, la liste est tellement longue. Nous le voyons, nous le vivons, elle est tellement longue que les manifestants, plus près de nous, nous savons ce qui se passait lorsqu'il fallait revoir le fichier électoral. Vous voyez tout cela? Il fallait une loi. Et puis, s'il faut même juger les gens, sur base de quel texte on peut les juger. Vous voyez ça? Donc, même si cette responsabilité dont on parle auprès de ceux qui organisent, mais exactement, ça donne des leçons aux partis organisateurs ou bien à ceux qui organisent les manifestations de telle manière qu'ils aient la notion d'éducation
de leurs militants lorsqu'il s'agit de manifestations publiques. Donc, il y a des lois, ils doivent en savoir. S'ils ne savent pas la loi, donc dans ces conditions-là, ce sera l'anarchie. Moi, j'estime que la loi doit être contraignante. Il faut aussi que l'équilibre soit établi entre les organisateurs et ceux qui autorisent ou bien qui doivent faire encadrer. De telle manière que tout le monde sache qu'il y a une responsabilité et qu'en cas de dérapage, c'est tel ou tel autre qui va répondre.
Qu'est-ce que vous reprochez à la loi en vigueur, n'est-ce pas celle qui autorise en fait les régimes d'information? Est-ce que c'est la loi elle-même qui est, n'est-ce pas, déficitaire ou c'est plutôt la mise en application qui a posé problème?
Mais c'est la mise en application. Vous savez, on était lié à la volonté des individus. Ils ne pouvaient pas motiver pourquoi ils ont interdit la manifestation. Vous voyez ça? Donc ils ne pouvaient pas. Ils vous disent que non, c'est interdit parce qu'ils ne motivent pas. Et l'avantage de l'actuelle loi, c'est qu'elle nous donne la possibilité de comprendre pourquoi cette manifestation a été interdite et pourquoi l'itinéraire a été changé. Donc, dans l'ancienne loi, on ne pouvait pas. C'était la simple décision d'un individu qui, soit qui ne partage pas le point de vue de telle tendance et il s'organise et il se fait arrêter l'affaire. Il vous dit que non, on ne va pas marcher. Et du coup, c'est les gens avec les armes à feu sur la rue pour vous en face des autres personnes qui n'ont pas d'armes à feu. Donc, dans le cas précis ici, je crois que l'ancienne loi ou l'ancien décret était un décret qui a été utilisé pour des raisons politiques et pour peut-être faire de la répression de manifestants pacifiques.
Et Jonas Tumbela, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Mahagui en province orientale.
Guillaume Lebrasbert, province orientale, territoire de Mahagui, dans quelle partie cette belle loi prévoit-elle lors d'une manifestation de tirer avec les armes à feu ou les armes létales? Est-ce que cette loi va-t-elle nous amener devant un comportement républicain? Car lorsque le sang coule à démocratie, ce n'est pas un honneur.
Votre réaction,
Jonas Tumbela? Je crois que ici, il s'agit d'une loi qui réglemente finalement cette utilisation de ces armes-là. Il ne s'agit pas d'une loi qui autorise les armes. Je salue le compatriote qui s'inquiète. Donc ici, il ne s'agit pas d'une loi qui organise comment on peut utiliser les armes à feu, comment on va utiliser les armes non létales ou létales. Tout cela, c'est du fait que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Parce qu'il y a cette interprétation politique. J'interdis, ou je ne l'interdis pas, mais je le concept, sa conception des choses, il faudra qu'ils comprennent qu'on ne peut pas autoriser l'usage des armes à feu. Il n'y a pas une loi qui autorise, il y a les conditions qui autorisent quand est-ce qu'on peut utiliser ces armes à feu. Donc la loi actuelle, elle a l'avantage de rectifier ce qui n'a pas été bien fait dans le passé. Et cela au regard de notre environnement politique.
Oui, honorable Denis Sanga, vous avez suivi les interventions des uns et des autres. Ils ont exprimé la crainte de voir cette loi, n'est-ce pas, donner lieu à des abus. Comment comptez-vous faire pour, n'est-ce pas, prévenir une telle situation?
La première des choses, il faut savoir que la situation actuelle, il y a plus d'abus qu'il y en aurait avec l'adoption de cette loi.
C'est avec possible. L'utilisation des armes non létales.
Non, il ne faut pas faire tout un plan là-dessus sur l'utilisation des armes à feu. Donc, aujourd'hui, on utilise les armes à feu. Aujourd'hui, on les utilise sur base de la loi sur la police. Parce que l'autorité civile peut requérir la police pour rétablir l'ordre public lorsque l'ordre public est troublé. Et la loi actuelle, le décret, ne fixe pas les conditions dans lesquelles ceci doit se faire. Moi, je pense que je suis très heureux ici de me retrouver avec mon frère Tumbela, qui est de la société civile, de me retrouver avec un aîné qui, dont on ne peut pas remettre en cause non seulement le combat pour la démocratie, pour les libertés dans ce pays, par profession et par engagement politique, j'ai beaucoup de respect pour lui. Voilà quelqu'un qui va au fond des choses et propose quelque chose qui est intéressant. Il dit, concernant l'arme à feu, c'est une question d'option. Ce sont des questions techniques. Alors, quand on veut traiter des questions techniques avec le travers de la discussion politique, on compromet tout. On compromet tout. Donc, la question technique, quelle est-elle? Soit on dit, la réglementation de l'usage des armes ou de la force au moment de manifestation est laissée au décret d'application de la loi. C'est une option technique. Ou soit nous considérons, et j'ai compris là, Et moi, je vais adopter cette position de Maître Mukendi, de dire que pour donner davantage de garanties, on peut reprendre les engagements que nous avons dans le cadre de ce qui a été convenu au Congrès de la Havane, le reprendre dans la législation nationale pour pouvoir rassurer tout le monde. Ça, c'est le premier point et ça, c'est réglé. Le deuxième, concernant la responsabilité. Aujourd'hui, lorsque vous avez une autorité publique qui vous refuse d'aller manifester, il ne répond de rien. Quelle faute a-t-il commise? Aucune. Deuxième élément, moi j'entends les gens parler de la responsabilité des manifestants. Dans l'arsenal juridique congolais aujourd'hui, lorsque une autorité publique vous dit, elle en vient, mais d'ailleurs ils ne le font pas, ils somment de cesser de manifester, donc on est dans le cadre de l'attroupement. Si vous poursuivez, vous savez sous quel chef d'inculpation vous pouvez être poursuivi? C'est la rébellion. Et la rébellion, elle est punie lorsqu'elle est des concerts. Elle est punie de jusqu'à 5 ans et une amende de 200 000 zaïres. Hein, ça n'a pas été actualisé. C'est de 5 ans. Donc, il faut que les gens comprennent que cette loi ne vient pas vider l'ensemble et que c'est une loi par rapport à l'exercice d'une liberté publique. Et on peut comparer, quand on dit que les peines que je propose sont plus lourdes, il faut les comparer aujourd'hui par rapport à l'arsenal qui existe dans le droit pénal ordinaire. Nous voulions des sanctions qui soient bien précises. Et quand on dit qu'on a chargé les organisateurs, non. Il y a une responsabilité des principes de l'État. Lorsque vous avez subi un dommage à la suite d'une manifestation, vous attaquez l'État. Et c'est l'État qui vous dédommage. Mais simplement, l'État peut faire une action récursoire contre ceux qui y ont organisé, contre ceux qui se sont rendus coupables ou qui étaient effectivement responsables. Cela se fait dans tous les pays. Donc, je ne vois pas pourquoi...
Ça fait bien que quand il y a manifestation, il y a plusieurs acteurs, il y a pas que les organisateurs.
Ils organisent une manifestation, ils sont infiltrés par des agents qu'ils connaissent, parce qu'ils connaissent leurs militants. Ils sont infiltrés par des agents. Quelqu'un a subi un dommage, il va attaquer l'État, et l'État va se retourner contre l'UDPS. L'UDPS va dénoncer les gens qui ont été là. Ce sont ces gens-là qui viennent pour saborder les manifestations, qui vont en définitive répondre. Donc, on garantit les droits des autres citoyens qui subissent les dommages, parce que ça ne doit pas être une responsabilité aveugle. Merci. Et de même, en même temps, on prévient à ce que ceux qui ont organisé puissent avoir un peu plus de responsabilités. Il n'y a pas de droit sans devoir.
Merci Maître Jean-Joseph Mukendi. À son article 33, ce texte de loi stipule que les organisateurs sont civilement et pénalement responsables des dommages causés lors des différentes réunions publiques.
Oui, et d'abord, je voudrais remercier l'honorable Delice Sanga. Et comme suggestion, pour apporter un peu notre concours, je crois qu'il peut reformuler l'article 32 en s'inspirant des dispositions de l'article 9 de la disposition dont nous avons parlé.
Sur l'usage des armes à feu.
Et je peux lire très rapidement, puisque c'est un débat qui intéresse tout le monde.
Je vous en prie.
Les responsables de l'application de loi ne doivent pas faire usage d'armes à feu. Vous voyez, il faut commencer par leur interdire. Contre les personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers, contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité. De l'article non, mais le principe, il faut inverser. D'abord interdire, mais leur donner. Et tout à l'heure, l'honorable a bien parlé aussi même des armes non létales. Même ces armes-là doivent faire l'objet d'une réglementation. Et je crois que l'honorable peut saisir cette opportunité pour reprendre la disposition qui stipule que la mise au point et l'utilisation d'armes non meurtrières, quand on parle des armes non létales, c'est non meurtrières, mais non meurtrières neutralisantes devraient faire l'objet d'une évaluation attentive afin de réduire au minimum les risques à l'égard des tiers, et l'utilisation de telles armes doit être soumise à un contrôle strict. Je crois que ces dispositions vont améliorer le texte.
Oui, maître, l'article 33, voilà, sur la responsabilité civile et pénale, et, n'est-ce pas, qui sont attribuées aux organisateurs de toutes ces manifestations.
C'est un principe général. Il est exact que lorsqu'on organise une manifestation, le principe de droit est que on doit être civilement responsable du préjudice qui pourrait être causé. C'est pour inciter des organisateurs à être assez stricts. Et tout à l'heure, en glissant, l'honorable a parlé de quelque chose. Vous savez, c'est un acteur politique. Mais qu'est-ce qui se passe généralement? Généralement, ce sont les autorités publiques, contrairement à leur mission, qui infiltrent des personnes pour créer le désordre et les mettre sur le dos des associations. Et c'est la raison pour laquelle il y a lieu donc de nuancer un peu cette responsabilité, parce qu'il arrive, et moi je sais de quoi je parle, puisque j'ai déjà été témoin à plusieurs occasions de cela, j'ai des preuves irréfutables. Et donc, le principe légal est bon, mais son application dépend dans le contexte congolais où nous sommes, où nous avons parfois des pièges tendus par l'autorité qui devrait pourtant protéger tout le monde. Vous savez, c'est un grand problème de tolérance dans notre pays.
Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kananga au Kasaï occidental.
Maître Adrien Ilobakwe Ifero à Kananga au Kasaï occidental. Je me demande si il est vraiment opportun à ce moment précis de songer à une telle loi. N'est-ce pas là une façon de faire peur à la population congolaise pour qu'elle ne réagisse pas en cas d'un problème?
Votre réaction, Maître Mukendi?
Oui, je crois que la réaction de Maître Adrien est assez légitime. Et c'est la raison pour laquelle moi je m'inscris dans le principe plutôt qu'il faut plutôt améliorer, le libérer pour que justement la loi n'apparaisse pas comme étant destinée à réprimer ceux qui veulent exprimer leur liberté, mais qu'elle puisse les encadrer. Et je pense que c'est là est nécessaire parce que dans la législation actuelle, nous n'avons qu'une protection. Et quand vous voyez le nombre de victimes que nous avons lors des manifestations, on n'a même pas de recours. Vous savez, par exemple, chez nous, à l'UDPS, nous avons dénombré chez nous près de 50 morts pour lesquels on a fait des plaintes contre inconnus et jamais aucune réaction. Alors, c'est pour
cela
qu'il
y a 50 morts, selon ce que vous dites, 50 morts, oui. Lorsqu'on a utilisé les armes non létales, mais cette fois-ci, il sera question d'utiliser les armes à feu.
Malheureusement, contre l'UDPS, on utilise les armes de guerre. Plus que les armes non létales. La télévision l'a déjà montré. Et c'est pour ça que pour moi, je crois qu'il est important d'avoir une réglementation qui permette d'encadrer. Et ça nous permettra éventuellement aussi, et là c'est l'avantage de la loi, de la proposition de loi, de pouvoir faire assumer la responsabilité à celui qui a interdit la manifestation ou qui a donné l'ordre pour qu'on utilise les armes.
Merci. Jonas Tchoumbela, les organisateurs sont civilement et pénalement responsables des dommages causés lors des réunions publiques, alors qu'on sait que là où se tient une manifestation, il y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs acteurs, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas établir les responsabilités de façon individuelle au lieu de les établir de façon collective?
Mais je crois que cette question, je venais de parler tout à l'heure, que cette responsabilité du côté des organisateurs doit être comprise dans ce sens, parce que ça donne aussi la matière aux organisateurs. Ils doivent savoir comment ils doivent encadrer leurs manifestants. Ils doivent savoir comment éduquer leurs militants. Et cette loi, c'est une loi normalement qui devait être comme une bible de manifestants. Et chaque fois qu'il y a cette loi en face d'eux, ils savent que si nous faisons ça, nous allons répondre. Donc il y a cela. Donc c'est une façon de les placer aussi devant les responsabilités quelque part. Au-delà de tout ce que nous entendons, qu'on peut infiltrer des gens pour casser, mettre sur le compte des organisateurs. Et là aussi, ça peut le permettre de doubler la vigilance. C'est une loi qui interpelle à la fois, qui le donne aussi l'occasion de dire, mais attention, si dans nos rangs, il y a des hommes qui n'ont pas été autorisés à être avec nous, mais qui portent des armes ou bien qui vont créer les déséquilibres dans la manifestation. Donc, il y a aussi cette responsabilité-là dédiquée. Moi, je vois la mission dédiquer les manifestants à s'habituer au droit des réunions comme ils vont bientôt ou bien ils l'organisent. Donc, pour nous, cette responsabilité doit être se comprise comme cela. Sinon, il y aura aussi l'anarchie. Si on organise une manifestation et qu'on ne sait pas contrôler les manifestants, il y a un problème.
Oui, honorable Denis Sanga, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Lubumbashi au Katanga.
Placide Mutombo de Lubumbashi au Katanga. À mon avis, je crois que notre constitution garantit la liberté de tenir des réunions et celle d'organiser des manifestations à caractère politique et public. S'il y a un problème, c'est au niveau de l'application des mesures d'encadrement lors de la tenue de ces réunions et manifestations. Alors, je voudrais savoir quelle nouveauté on apporterait à cette loi pour qu'elle soit respectée par les uns et par les autres.
Honorable, votre réaction?
Ben, voyez-vous, moi je suis un républicain irréductible. Je sais que la situation du pays est ce qu'elle est. l'autorité de l'État n'existe pas et nous sommes dans une situation où nous vivons de l'impunité, où les gens finalement se sont habitués à une certaine anomie, une vie sans règles, sans principes. Je sais aussi que les lois que nous adoptons, en commençant par la Constitution, ne sont pas toujours respectées. Mais notre combat justement à tous, c'est d'amener ce pays à respecter les lois. Parce que je ne vois pas, nous sommes plus de 400 ethnies dans ce pays. Nous sommes de plusieurs confessions religieuses. Nous sommes de plus de 450 partis politiques. Nous sommes d'une diversité effrayante. Mais qui ne deviendra une richesse que si, au-delà de la diversité, il y a des règles qui s'appliquent à tous et que tout le monde respecte. Donc ça doit être un combat. Voilà. Donc maintenant, les gens ne doivent pas dire, parce qu'on ne respecte pas la loi, est-ce que cette loi, si vous la prenez, est-ce que... Non, ça c'est vraiment péché contre la République, parce que avoir ce comportement-là, c'est prêcher finalement pour le totalitarisme, c'est-à-dire le pouvoir discrétionnaire des uns et tout ça. Nous devons nous battre tous pour que les lois que nous adoptons soient effectivement respectées, j'en suis conscient.
Là, c'est Domichi de Matadi Obakongo qui dit « Ce projet de loi incombe la responsabilité civile et pénale aux organisateurs. Quelles dispositions pratiques que M. Delice Sanga a prévues pour connaître dans la masse que tel trouble proviendrait des manifestants ou des policiers plutôt qui sont appelés à encadrer la manifestation ? Car nous savons aussi que dans la stratégie du pouvoir, les policiers, par moment, provoque des troubles pour culpabiliser les organisateurs.
C'est un problème fondamental qui existe. Je crois qu'il y a de l'éducation à faire chez nos militants, mais il y a de l'éducation et de la formation qu'il faut faire au niveau de la police. Je pense qu'encadrer une manifestation dans une république, dans un état de droit, n'est pas la même chose que dans une dictature. Et que les éléments de la police doivent être formés aux méthodes et aux techniques d'encadrement de la manifestation. Et qu'il doit y avoir une discipline dans l'usage de la force. Moi, je me demande même si les autorités civiles qui sont dépositaires de la force publique, s'ils font réellement des réquisitions écrites à l'autorité de la police avant que la police n'entre en mouvement quand elle vient contrôler les manifestations. Il y a un certain nombre de règles que nous nous donnons et nous devons nous appliquer tous pour que ces règles-là, finalement, on arrive à les respecter. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Pour contourner cet effet-là, il faudrait que la justice devienne indépendante parce que seule la justice pourra condamner ceux qui violent la loi ou la contournent. C'est prévu.
Nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous pouvez conclure.
Mon souhait est que cette loi, à travers le débat qu'il a suscité, soit un débat réellement républicain, soit un débat des démocrates, pour l'améliorer. Je sais qu'il faut l'améliorer. Là, autour de cette table, dans la sérénité,
vos collègues de l'opposition à l'Assemblée nationale vous accusent de jouer les jeux du pouvoir.
Vous savez, lorsque quelqu'un n'a plus d'argument, il a cet argument de la personne parce qu'il croit qu'en s'attaquant à la personne, il aura tué les débats. Mais les débats démocratiques doivent continuer. Nous devons améliorer cette loi. Elle doit nous protéger et je maintiens que sans cette loi, aujourd'hui, nous sommes plus sanctionnés. On dit des mensonges. Moi, j'ai dit par exemple que fait de résister est condamné d'un an. Mais les gens disent
que
les sanctions que nous avons prévues sont plus graves alors que la rébellion qui est prévu dans le code pénal, prévoit 5 ans. Donc on raconte des histoires qui ne tiennent pas la route.
Merci. Maître Jean-Joseph Mukendi Mulumba, votre conclusion.
D'abord, je dois dire que toute loi est perfectible. Il y a déjà des éléments de base. Et je comprends parfois les auditeurs qui réagissent, notamment quand ils voient les principes constitutionnels. Mais le problème est que quand un principe est énoncé dans la Constitution, il faut la mise en œuvre. Et c'est la loi qui répond à cela, c'est une mise en œuvre des principes qui sont déjà dans la Constitution. Donc, il y a comme conclusion, il y a des améliorations pour tenir compte du contexte actuel où nous avons une police et des forces, des agents de l'ordre qui doivent être éduqués à la tolérance. Deuxièmement, il y a aussi des problèmes, des préoccupations des droits de l'homme dont il faut tenir compte, notamment pour la protection de la jeunesse.
Merci.
Et notamment pour le tapage nocturne.
Merci.
D'où l'article sur l'interdiction des manifestations dès de 22 heures
devrait
être modifié pour tenir compte du tapage nocturne.
Merci.
Vous savez que le droit à la réunion publique a un prix. Il faut qu'on endure, nous avons besoin de nous approprier cette loi pour le faire appliquer. Ça ne s'obtiendra pas, c'est au prix de la lutte.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon suivi du programme sur Radio Okapi.